Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est le 25 juin, nous sommes jeudi. Oui, c'est mélangeant. On avait congé hier et puis on est de retour aujourd'hui. Mathieu, est-ce que vous êtes déboussolé?
Ben moi, je me crois dimanche, le 25 décembre. Ça va pas bien.
Oh là, le 25 décembre, exagérez pas. C'est dans combien de temps, le 25 décembre?
189 jours.
Okay. Oui, oh, vous faites le calcul.
Ben, c'est parce que moi, ici, j'ai une façon très rapide de savoir quel jour on est dans l'année. On est à la 176e journée.
OK. Puis on est à combien de temps de Noël en termes de mois? Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois.
Eh ouais.
Ah, je sens que ça va passer vite, mais là, l'été ne fait que commencer. J'espère que vous avez passé un beau 23, un bon 24 juin. C'était la fête. Il y avait du monde dans à peu près tous les parcs et le beau temps a fait lever tous les parties. J'espère que vous en avez bien profité. Au bout du fil, Yvan Deslauriers et Monique Kirouac. Bonjour à vous deux.
Bonjour Hélène.
Avez-vous fêté la Saint-Jean? Allô?
Oui, oui, oui. Ben nous, à Iceman, c'était le 23.
Oui.
Donc, beaucoup d'activités très, très, très variées. Les enfants se sont bien amusés, les adultes aussi. Il y a même eu un concours sur notre célèbre Lafleur, Guy Lafleur.
Ah oui, hein? Qui aurait eu 75 ans cette année.
C'est ça, exactement. Et puis, mon petit-fils, qui est nouvellement arrivé au Québec, ben, il est arrivé 10e sur 150.
Wow, bravo! Il s'appelle comment?
Ben, il se renseigne, là, tout le temps sur ce qui se passe au hockey, l'histoire et tout ça. Donc, il est bien au fait.
Est-ce qu'il s'appelle Guy?
Non, il s'appelle Achille et il a 8 ans.
Achille! Oh! Achille, 8 ans. Tout à fait mignon. Et vous, très cher Yvan, est-ce que vous en avez profité un peu?
Un tout petit peu. Mais en fait, on a eu un souper de famille impromptu hier.
Ah, ça, c'est le fun.
Ça, c'est vraiment le fun. Puis, on regardait le soccer en même temps et tout. Alors, on a fêté, mais sans l'avoir préparé.
Bon, le Canada a perdu. J'espère que ça n'a pas gâché la sauce de votre côté.
Non. Surtout qu'ils ont joué un bon match. Mais puis ils s'en vont en ronde d'élimination,
en ronde d'élimination pour
la première fois. Alors non, c'est tout des bonnes nouvelles.
Il y a encore de l'espoir. Bon, et puis vous, cher Mathieu, vous disiez que vous alliez écouter l'œuvre entière de Richard Desjardins. Est-ce que c'était une blague finalement?
Non, c'était pas une blague, c'était ce qui était prévu. J'en ai écouté aucune.
Ah.
Mais c'est pas grave, j'ai passé une très belle journée.
Oui.
À faire autre chose.
Oui, comme quoi?
J'ai beaucoup écrit.
Ah oui, Mathieu, qui a un projet d'écriture qui est en cours depuis quand même quelques semaines. Et puis, il y a un livre qui va sortir au bout de ça. J'ai bien hâte de faire l'entrevue, de le lire d'abord et de faire une entrevue avec vous.
Laissez-moi le temps de le terminer.
Mais je suis entourée d'écrivains ici. Il y a plein de monde qui ont des projets d'écriture. Je pense à notre collègue Denis-Martin Chabot. Et je n'irai pas plus loin que cela parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on en parle pour l'instant. Alors, ce n'est pas moi qui ai écrit un livre pour tout vous dire. Mais je suis très fière d'animer cette émission aujourd'hui, comme à tous les jours ou presque. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler avec Véronique Côté, co-autrice et metteuse en scène de la pièce Un succès populaire qui prend bientôt l'affiche. Et également, nous aurons bien les collaborations d'Yvan et de Monique et les parasports avec Dominique Tremblay qui revient de voyage. Il y a plein de choses à nous raconter. Ce Dominique-là, il est allé à Los Angeles, il est allé à Alabama. Alors, on a bien hâte de l'entendre. Et il nous parlera aussi du Comité international olympique qui va remettre des prix en argent. Il va nous dire quel sera l'impact sur les Jeux paralympiques. Monique, présentez-nous votre sujet. Il est où le bonheur?
Eh oui, n'est-ce pas une belle chanson, hein?
Oui.
C'est quoi la réponse à cette chanson « Il est où le bonheur ?» Je pense que c'est une question universelle. Mais puis quelles sont les conditions pour se sentir heureux? Alors, il y a une enquête, Hélène, qui est faite de façon annuelle depuis 11 ans. Ça s'appelle le World Happiness Report. Et il nous dit, ce rapport, entre autres, que le bonheur ne repose pas uniquement sur la richesse. Et c'est Raphaël Corbeil, journaliste pour la revue Québec Science, l'édition de ce mois-ci, qui nous révèle comment la science mesure et les trouvailles, en fait, les résultats de certaines données qui, je pense, vont vous surprendre.
À suivre, Mike West et Simon Mayotte, ou Mayo, ce sont deux personnes qui vous ont intéressé, Yvan. Vous allez nous parler de leur projet, de leur vie, finalement.
Oui, tout à fait. Et dans les deux cas, ça tourne autour de la course à pied. Dans le cas de Mike West, ça lui a permis de changer sa vie de façon très concrète. Lui qui avait des problèmes de consommation d'alcool. Et dans le cas de M. Mayo, ou Mayotte, on va l'appeler Simon Mayotte. Lui, c'est plutôt comique. Il avait annoncé sur Instagram qu'il allait courir le score du Canada. Alors, si le Canada au soccer comptait un but, il courait un kilomètre. C'est juste que dans le deuxième match du Canada, ils ont gagné 6-0. Alors, ça a changé sa journée.
C'est
alors,
sûr.
Je vous raconte les deux histoires.
Merci beaucoup.
Foufou, mon minou, une chanson de chocolat.
Merci Mathieu. À la une de la presse est en Alberta, sur les traces du tireur à Lethbridge en Alberta. Les conséquences de la fusillade de Côte-des-Neiges à Montréal se font sentir. Je vous résume l'article. La police a effectué une perquisition au domicile du tueur, le suspect de 25 ans, abattu par les policiers après l'attaque qui a coûté la vie à Mohamed Lamine Ben Redouane et Michael Moshe Misrahi. Les voisins décrivent le tueur comme une personne discrète et peu sociable, tandis que son père est perçu comme un homme sympathique. La communauté est sous le choc et de nombreuses questions demeurent sans réponse sur le parcours du suspect. Un autre titre à la une de la presse, et on en parle partout, c'est le Venezuela qui est frappé de deux puissants séismes, qui a été frappé mercredi soir par deux séismes de magnitude 7,2 et 7,5 survenus à quelques secondes d'intervalle, suivis de nombreuses répliques. Les autorités craignent une catastrophe majeure avec un lourd bilan humain et des dégâts matériels importants. À Caracas, plusieurs immeubles se sont effondrés. Des personnes ont été piégées sous les décombres et les secours sont mobilisés. Alors, les plus récentes nouvelles qui ont été mises à jour, notamment dans la presse Plus, on parle d'au moins 164 morts, près de 1000 blessés et d'importantes destruction. La presse à Vancouver, Coupe du monde 2026, direction l'histoire. Le Canada perd contre la Suisse, mais participera pour la première fois à la phase éliminatoire. Et chant Fleur-de-Lysée, des milliers de personnes ont célébré en musique au Parc Maisonneuve de Montréal. Je ne sais pas si vous avez regardé le spectacle, si vous étiez au Parc Maisonneuve, mais ça a été une belle soirée. On sent que les artistes sont très heureux et reconnaissants de participer à ces spectacles de grande envergure, soit à Québec ou à Montréal. Et aussi, il y avait tellement de spectacles dans différents parcs. J'espère que vous en avez bien profité. À la une du Journal de Montréal maintenant, la famille du tueur marquée à jamais à Lethbridge où vivait le tueur, des voisins et sa tante sont sous le choc. Alors, on a mis à la une le tueur qui a une carabine entre les mains. Deux survivantes se confient. Le héros a sauvé au moins 5 femmes. Alors, c'est à lire et ça donne beaucoup d'émotion. Il a fait ce qu'il a pu pour protéger des clientes d'un restaurant après avoir vu l'homme armé et il est mort. On parle ici de Michael Moshe Misrahi, mort tragiquement lundi. Gilles Vigneault, toute une présence, 97 ans, toujours fier Québécois, 97 ans. Il est à la une du Journal de Montréal et on parle des séismes majeurs au Venezuela. Gilles Vigneault qui est arrivé comme ça, c'était une surprise. Il nous a offert un très beau texte d'amour sur la langue et ça faisait du bien de le voir. Ça faisait partie des bons moments de cette fête qui a été présentée hier en direct du Parc Maisonneuve. Et à mon avis, en tout cas, ce qui a fait lever le party, c'est Diane Dufresne et Soulja dans une interprétation renversante de la chanson Oxygène.
Les jours passent, je me demande qui croit. Ma tête pense tout savoir. Je prends un chemin. Comment confiance au temps. Je fais confiance au temps.
C'est le titre de la chanson « Je fais confiance au temps » de Maëja.
Eh oui, on parlait de la fête nationale. Il y en a une à Québec et une à Montréal et une dans à peu près tous les quartiers, les régions du Québec. Pas à peu près, partout. Et à la une du Devoir, on voit de belles images. Des milliers de personnes fêtent le Québec à Montréal. Et on parle aussi du Festival international de jazz de Montréal qui prend son envol aujourd'hui. Yvan, à vous la parole. Vous nous parlez d'abord et avant tout de Mike West, un homme qui a fait un changement de vie assez radical.
Oui. Juste avant, je ne peux pas m'empêcher de réagir à ce que vous avez dit à propos de Diane Dufresne. 81 ans, chanter comme ça devant une foule incroyable, je me souhaite ça n'importe quand. Voilà.
Ah, oui, bonne chance. Elle est extraordinaire. En effet.
Oui, tout à fait. Donc, on revient à Mike West. La promesse qui a tout changé, c'est un article que j'ai trouvé dans la presse le 20 juin, donc samedi dernier. Il raconte qu'en septembre 2010, il annonçait à ses fils son intention d'entrer en centre de désintoxication. Non seulement il est sobre depuis 15 ans, mais il a participé dimanche à son premier demi-Ironman à Mont-Tremblant. Alors, Mike West se souvient de l'année 2009 comme si c'était hier. Il y a des dates comme ça qui nous marquent. Plusieurs événements personnels étaient survenus en peu de temps. Il traversait une séparation et passait beaucoup de temps au chevet de sa mère, alors atteinte d'un cancer. L'alcool est devenu, en guillemets, un échappatoire. Les semaines où ses fils n'étaient pas à la maison, il buvait entre 8 et 12 bières par jour. Il dit « ça m'apaisait, mais le lendemain, j'étais tellement magané que ça m'affectait de plus en plus et ça affectait le monde autour de moi, mes proches. » Mike West avait alors... Mike West a 60 ans présentement. Quand sa mère est morte en mai 2010, il a frappé le fond du baril. Il dit « j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. » C'était vraiment hors de contrôle. Le père de famille s'est établi avec ses fils Charles-Antoine et Jeremy, alors âgés de 13 et 18 ans, afin de leur présenter la situation. Ensemble, ils ont cherché un centre de désintox sur le web. Ils ont arrêté leur choix sur la maison L'Alcôve à Saint-Hyacinthe. Mike West nous dit qu'il voyait ses fils que j'étais malheureux et ils étaient soulagés que je veuille me prendre en main, mais aussi, il y avait un doute. Ils espéraient que ça fonctionnerait. C'est Jeremy qui a reconduit M. West jusqu'à la maison L'Alcôve lors d'une journée particulièrement chargée en émotions. Le grand billet y a passé 3 semaines. 3 semaines qui ont changé sa vie de A à Z. Il dit « quand tu es tout seul, tu travailles vraiment sur le plus profond de toi-même. J'ai suivi les consignes à la lettre. Je faisais les travaux que je devais faire. J'allais dans les discussions de groupe. Au début, c'était difficile, mais on sait qu'on est avec un groupe de personnes qui vivent la même chose. On s'encourage mutuellement. » Quand Jeremy est venu le chercher 3 semaines plus tard, M. West était un homme changé. Il dit « je me souviendrai toujours de l'accolade qu'on s'est donnée quand je suis sorti. On a beaucoup parlé. J'ai fait la promesse que c'était terminé. » Une promesse qu'il a tenue et qu'il tient toujours. En sorte, d'ailleurs, il y a une superbe de belle petite photo. Mike West qui est au centre, ça c'est après une de ses courses, flanqué de ses fils Jeremy et Charles-Antoine et probablement un de ses petits-fils. Très belle photo. En sortant de désintox, Mike West a décidé de reprendre la course à pied, un sport qu'il avait déjà pratiqué de façon occasionnelle par le passé. J'avais un côté excessif avec l'alcool et j'ai décidé de le mettre dans le sport. Instantanément, il a ressenti les bénéfices. Son équilibre mental s'est amélioré de A à Z. Il continuait d'ailleurs à participer régulièrement à des rencontres des alcooliques anonymes. D'année en année, la passion de M. West pour la course à pied a grandi et grandit encore. En 2012, il a pris part à son premier marathon, celui d'Ottawa. En 2018, il s'est qualifié dans son groupe d'âge pour le marathon de Boston de 2020, qui a finalement été reporté en 2021. C'est son ami Mario Penel, un homme important dans sa vie, qui lui a préparé un programme d'entraînement. Il dit « Ça a été un accomplissement. Quand je finis une course, je réalise toujours le chemin que j'ai parcouru. Je suis toujours émotif. » Quelques années plus tard, à l'été 2024, il y a 2 ans, M. West a décidé de passer au niveau supérieur, les triathlons. Avec l'aide de son ami Mario, il a acheté son premier vélo de route et il a vraiment appris à nager en regardant d'autres nageurs à l'œuvre, en écoutant des vidéos sur YouTube et en suivant les conseils de ses amis. Il dit « L'hiver, j'allais au gym pour faire de la musculation, des étirements. J'ai vraiment suivi un entraînement sérieux pendant 1 an pour mon premier triathlon. » Ce dernier a eu lieu à Salaberry de Valleyfield en août 2025. Il s'est tellement bien déroulé que M. West en a fait un 2e à Montréal quelques semaines plus tard. Et à l'automne, il a appris qu'il avait obtenu une place dans son groupe d'âge pour les championnats mondiaux qui ont lieu en Espagne en septembre prochain. Depuis le mois de janvier, Mike West se prépare assidûment pour son premier demi-Ironman qui a eu lieu dimanche qu'on vient de passer. Et il disait à ce moment-là, ce sera un autre accomplissement dans ma bucket list. Un accomplissement de plus, donc, pour cet homme qui, rappelons-le, s'est choisi il y a 15 ans quand il a décidé d'entrer en désintox. Il en parle d'ailleurs régulièrement avec ses fils. Ils sont fiers, laissent-ils tomber dans un rire gêné. J'ai très conscience du chemin que j'ai parcouru. J'ai vraiment travaillé fort pour me rendre où je suis. Jeremy et Charles-Antoine sont d'ailleurs là avec leur famille, ont été là d'ailleurs avec leur famille ce week-end à Tremblant, comme ils l'ont été il y a 15 ans. Alors le paternel conclut en disant « J'ai vraiment hâte, on va vivre de beaux moments. » Et les résultats, Mike West a fini 39e dans sa division pour une course qui a duré 6 heures, à peu près 6 heures, oui. Alors
39e sur combien?
Je ne sais pas, je suis sur la liste des résultats, puis je ne le vois pas sur combien.
Mais en tout cas, il est allé au bout de la course et c'est déjà un exploit. Oh.
Puis en Ironman, c'est vraiment très, très, très exigeant.
Oui.
Alors, c'est vraiment une belle histoire que je sentais qu'il était important de transmettre.
Vous l'avez bien senti. Vous avez eu raison. Et puis, une autre histoire aussi importante que vous voulez partager avec nous?
Oui, oui. Simon Mayotte, qui avait annoncé sur Instagram qu'il allait courir le score du Canada juste avant la 2e rencontre de la sélection en Coupe du monde jeudi soir dernier. C'est William Thériault dans la presse du 20 juin qui nous raconte ça. Mais il s'attendait probablement pas à ce que le Canada gagne 6-0. Alors, ses règles étaient claires. Le nombre de buts du Canada déterminait le premier chiffre et celui du Qatar, le second. Alors, si ça finissait 2-0, ça voulait dire que c'était 20 kilomètres. Puis si ça finissait 5-1, c'était 51 kilomètres.
Ouais.
Donc, il espérait que le Canada gagne, mais pas de trop. C'est un sportif de 21 ans qui, sourire aux lèvres, dans une vidéo désormais visionnée plus de 870 000 fois. Il dit « Il ne faut pas chercher loin pour comprendre ce qui a propulsé cette publication. Jeudi, l'Unifolié a remporté la première victoire de son histoire en Coupe du monde par 6 buts, qui plus est, dont un tour du chapeau de Jonathan David. Ce n'était pas dans mon plan d'entraînement, avoue avec un rire Simon Mayotte au téléphone avec la presse samedi. » Mais je trouve ça rassembleur. Plusieurs personnes m'ont écrit pour dire que c'est inspirant. Selon les bases de données du tournoi, moins de 4 % des matchs se terminent avec 6 buts ou plus pour un seul pays. Alors, il y avait quand même pas mal de chances sur son bord pour pas trop courir. Il dit, j'avais fait une course la veille, un 5 km en ville. Je voyais le score monter pendant l'échauffement, raconte le jeune homme d'Oka. Et sur le parcours, j'ai vu les gens célébrer à 6-0. Et je me suis dit, oh boy, ça va être un méchant défi. Rapidement, durant la rencontre, des commentaires ont lancé des encouragements et d'autres ont demandé des comptes. Certains lui suggéraient de supprimer la vidéo et renier sa promesse, ni vu ni connu, avant qu'il ne soit trop tard. Mais Simon est un coureur amateur aguerri. Il a plusieurs marathons sous la ceinture, il pratique le surf, le ski et s'entraîne au gym, en plus d'avoir déjà relevé le défi de courir chaque jour pendant une année complète, quand même. Sous la pluie, vendredi, armé de son sirop d'érable et de sa veste d'hydratation, Simon Mayotte a donc bouclé les 60 km, ça c'est un marathon et demi, en exactement 6 heures, soit au rythme de 6 minutes par kilomètre, en excluant quelques pauses. Le tout dans la bonne humeur totale. Et son parcours, ça a été le canal de la Chine vers l'ouest, un retour vers le centre-ville le long du fleuve Saint-Laurent, puis direction nord pour atteindre Villeray et terminer dans le secteur du Parc La Fontaine, à côté du poste de radio. Donc, ça a été sa plus longue sortie à vie. On arrête ici, mais j'espère qu'il va continuer ça pendant encore quelques matchs si le Canada se rend plus loin.
Merci beaucoup pour ces deux nouvelles, finalement. Ces deux textes fort intéressants.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Méchant farceur,
dans un creux de vague, l'amour zigzag, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau. Dans un creux de vague, l'amour zigzag, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau. Bonheur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici. Maudit bonheur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici.
Michel Rivard, Maudit bonheur.
Oui, très belle chanson, si émouvante. Monique, vous nous parlez du bonheur aujourd'hui, allez-vous nous donner une recette?
Ben, peut-être. En tout cas, une partie de réponse, Hélène, je crois.
Bon, on est tout oui.
Parfait. Alors, chaque année, depuis 2012, le World Happiness Report dresse un portrait du bien-être en classant les pays selon le niveau de satisfaction de vie de leur population. C'est publié par le Well-Being Research Center de l'Université d'Oxford, et ce, en collaboration avec plusieurs institutions internationales. Et ce rapport s'appuie sur de vastes enquêtes et mobilise économistes, psychologues et autres spécialistes pour analyser ce qui influence le bonheur. Au cœur de la démarche, il y a une question simple qui est posée à des milliers de personnes. À quel point êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre vie? Alors, au fil des années, le rapport s'est imposé comme une référence, en montrant, entre autres, que le bien-être ne dépend pas uniquement de la richesse, mais aussi de facteurs comme les relations sociales, la confiance envers ses compatriotes et le sentiment d'appartenance. Je pense qu'il est légitime de se demander comment se mesure le bonheur scientifiquement. Alors, ça repose sur une seule question d'enquête. En tenant compte de tous les aspects de votre vie, dans quelle mesure êtes-vous satisfait ou satisfaite de votre vie sur une échelle de 0 à 10? Cette question sert à évaluer la qualité de vie globale et non les émotions du moment. Mais ensuite, tout est dans l'interprétation. Qu'est-ce que les gens veulent dire exactement? Le travail scientifique consiste à comprendre les variables qui influencent les réponses avec des méthodes statistiques. Je pense que là, Yvan se rattache bien à ces deux mots, méthode statistique. On utilise pour cela d'autres informations issues des enquêtes. Il y a des questions qui mesurent aussi les états émotionnels, plus temporaires, comme « Vous sentiez-vous de bonne humeur hier ?» Probablement, puisque c'était la fête et c'était congé. On apprend beaucoup de choses sur les gens grâce à ce sondage et aussi à partir d'autres éléments comme leur lieu de résidence. Mais finalement, quels sont vraiment les facteurs qui influencent le bonheur? Ben, tout a une incidence sur le bonheur. La question est de savoir dans quelle mesure. Ce que montrent les décennies de recherche, c'est que les êtres humains sont des êtres profondément sociaux. Les facteurs les plus déterminants concernent donc nos relations avec les autres. Ça inclut les proches, mais aussi les inconnus et les personnes qui exercent du pouvoir sur nous. Si on prend l'exemple du travail, où on passe beaucoup de temps, ben la confiance que l'on accorde à ses collègues, à ses supérieurs, à son entreprise, mais aussi aux institutions, joue un rôle central. Plusieurs questions permettent donc de mesurer ce degré de confiance. Le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire l'impression d'avoir sa place dans la société, est également mesuré. Et ça a aussi un fort pouvoir prédictif. On examine ensuite des mesures plus objectives liées aux interactions sociales. Combien de temps passez-vous avec votre famille? Prenez-vous vos repas avec quelqu'un? De manière plus fondamentale, une grande part du bonheur repose sur le fait de se sentir aimé et utile. À côté de ça, on veut se sentir en sécurité et, évidemment, ne pas souffrir. Donc, la santé et la sécurité constituent également des facteurs des plus importants. Le Canada, on évalue donc plus précisément ce qui se passe au Canada. Eh bien, Hélène, il dégringole.
Ah, pas surprenant quand même.
Il se retrouve à la 25e place du classement, alors qu'il figure habituellement parmi les 20 premiers. La première question, c'est pourquoi cette baisse si marquée ne figure-t-elle pas à l'ordre du jour de tous les responsables politiques? L'ampleur de ce déclin est d'une gravité stupéfiante. Le Canada figure parmi les pays où la baisse a été la plus importante au cours de la dernière décennie. C'est un signal sérieux qui devrait susciter beaucoup plus d'attention parce qu'il reflète probablement des transformations profondes. Dans les faits, qui précisément devient moins heureux? Eh bien, on observe que les personnes qui souffrent le plus, ce sont les jeunes. C'est le changement le plus marquant au Canada. Les jeunes sont aujourd'hui nettement moins heureux qu'avant. Auparavant, les jeunes et les personnes âgées avaient des niveaux plus élevés de bonheur, avec un creux au milieu de la vie, la fameuse courbe en U. Aujourd'hui, les gens sortent de l'enfance et commencent leur vie en étant malheureux.
Comme c'est triste.
C'est terrible, n'est-ce pas? Encore une fois, il y a des facteurs économiques en jeu. Si vous entrez dans l'âge adulte aujourd'hui, il est difficile de savoir combien de temps il vous faudra pour atteindre le même niveau de vie que vos parents. Et ça, c'est une nouveauté. Il y a bien sûr la question du prix des logements, mais aussi une incertitude croissante sur le marché du travail. L'intelligence artificielle bouleverse tout. Est-ce toujours une bonne idée de devenir avocat, journaliste, informaticien? On a vu, Hélène, cette semaine, Oracle qui compte mettre à pied 20 000 personnes. C'est énorme. Oui. On ne sait plus vraiment. Certains scientifiques pensent que le monde va changer au point d'être méconnaissable d'ici quelques années et que ça va se passer extrêmement vite. Il y a ensuite, vous me voyez venir, les réseaux sociaux, sur lesquels le rapport mondial sur le bonheur s'est d'ailleurs concentré cette année. Et c'est vraiment inquiétant. On est tous exposés à des formes de manipulation. Le déclin du bien-être des jeunes est un phénomène surtout observé dans les pays occidentaux anglophones. Et dans les pays où le bien-être des jeunes diminue, le lien négatif entre bonheur et usage des réseaux sociaux est nettement plus fort. Dans les pays anglophones, l'utilisation intensive des réseaux sociaux est plus particulièrement ceux basés sur des flux algorithmiques très visuels avec une forte présence d'influenceurs est associée à un plus faible niveau de bien-être. Une des hypothèses concerne l'environnement numérique plus polarisant en anglais. Au Canada, nous sommes d'ailleurs devenus plus polarisés ces dernières années, tout comme aux États-Unis. Mais que se passe-t-il au Québec? Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que ce serait l'un des endroits les plus heureux au monde.
Oui.
Comment ça s'explique? Eh bien, quand on regarde les données sur le long terme, on voit un renversement spectaculaire. Alors, il semble, Hélène, qu'au début des années 1980, le Québec était moins heureux que n'importe quelle autre province du Canada, et ce, de beaucoup. Puis, son classement s'est amélioré de façon constante au fil des ans jusqu'à dépasser la moyenne canadienne et même récemment celle des provinces atlantiques, pourtant les plus heureuses. Cette hausse ne s'explique pas vraiment par les facteurs économiques classiques. Le Québec ressemble à certains égards davantage aux pays nordiques par son filet social et par une culture où l'on valorise le fait de résoudre les problèmes collectivement. On peut aussi penser à l'effet politique concrète, comme le soutien aux femmes et aux familles, les garderies, les congés parentaux, ou encore une plus grande flexibilité dans les normes sociales. Cela dit, il reste quand même difficile d'établir des liens de causalité clairs. Chez les jeunes, il y a aussi des pistes. Une différence importante, c'est la langue. La singularité aussi culturelle du Québec contribue probablement aussi au sentiment d'appartenance. Une question que se pose notre journaliste, la recherche sur le bonheur peut-elle influencer les politiques publiques? Eh bien, le rapport attire chaque année beaucoup d'attention. Mais pour qu'il ait un impact, il faudrait que le bien-être devienne une attente claire envers les gouvernements. Aujourd'hui, on n'attribue pas spontanément à l'État le rôle d'améliorer la qualité de vie. Bon, mais le levier, semble-t-il, le plus profond, c'est probablement l'éducation. Pas seulement les compétences techniques ou cognitives, mais aussi les compétences sociales et émotionnelles qui sont un élément essentiel du bien-être. Savoir gérer les relations, les conflits, prendre soin de soi. On a beaucoup de données scientifiques, mais on ne les enseigne que très peu. On ne devrait pas s'arrêter à l'école. Il y a un énorme manque d'éducation tout au long de la vie. Alors, j'espère que ça vous donne quelques réponses sur, justement, les conditions importantes pour qu'il y ait du bonheur dans notre cœur. Et, ben, comme le dit, le révèle ce rapport, on est les plus heureux du Canada. Sourions aujourd'hui.
Oui, et cultivons ce bonheur-là.
C'est pas toujours simple de s'aimer. C'est pas toujours simple de s'aimer. Garder la flamme allumée avant que tout parte en fumée. C'est pas toujours simple de s'aimer. On est plus qu'un feu de paille, qu'une étincelle. On n'est pas loin du volcan, du charbon ardent. Un train fougueux sur des rails, une flamme éternelle. C'est pas toujours simple de s'aimer. C'est pas toujours simple de s'aimer. Garder la flamme allumée avant que tout parte en fumée. C'est pas toujours simple de s'aimer. On peut nourrir le foyer, embraser le ciel. On peut remuer les tisons sans perdre la maison. Et souffler sur le brasier sans se brûler les ailes. C'est pas toujours simple de s'aimer. C'est pas toujours simple de s'aimer. Garder la flamme allumée avant que tout parte en fumée. C'est pas toujours simple de s'aimer.
C'est pas toujours simple de s'aimer.
On y va avec les brèves et on commence avec vous, Yvan, des nouvelles de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Il y a des activités là, que nous propose l'association.
Oui, et ils nous proposent de venir bouger avec eux cet été, avec une belle variété d'activités pour profiter du beau temps, rester actif et partager de bons moments ensemble. Alors, au programme, il y a des sorties en kayak, du vélo tandem, évidemment, des sorties en rabaska, c'est un très, très grand canot avec plusieurs personnes dedans, randonnée pédestre en pleine nature, activité aquatique, pédalo, descente en tube, sortie au parc d'attractions et activités variées. Donc, que vous soyez là pour vous dépasser ou simplement pour profiter de l'été dans une ambiance agréable, il y en a pour tous les goûts. Les membres et bénévoles, on sollicite les membres et les bénévoles pour collaborer, pour nous et signifier votre intérêt pour ces activités afin qu'on puisse offrir une programmation intéressante d'ici pendant tout l'été. Alors, l'association est toujours ouverte à vos propositions et au plaisir de vous rencontrer cet été.
Un vaccin à ARNM contre le cancer du pancréas, ça donne de l'espoir, ça, pour ce cancer qui est tueur.
Oui, exactement, Hélène. C'est une très bonne nouvelle parce que, comme vous le dites, c'est le cancer avec le pire prognostic. Actuellement, seuls 11 % des diagnostiqués survivent 5 ans. Leur profil immunitaire a inspiré l'idée de vaccins élaborés sur mesure pour chaque patient par BioNTech et Genentech. Il entraîne en fait les lymphocytes tueurs à attaquer les cellules cancéreuses porteuses de mutations spécifiques. 6 ans après, 7 des 8 patients qui ont répondu au traitement parmi les 16 traités sont encore bien portants. Alors, les essais passent en phase 2, ce qui est, comme vous le soulignez, une très bonne nouvelle.
Merci. Yvan?
Yoga et Qigong. 6 ateliers pour l'équilibre et la posture. Je suis toujours avec l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Cet été, découvrez une série de 6 ateliers de yoga et de qigong, spécialement conçus pour les personnes utilisant une canne blanche ou un chien guide. Ces cours visent à rétablir une bonne posture malgré les déséquilibres pouvant être causés par l'utilisation de la canne blanche ou du chien guide, tout en favorisant la stabilité, la souplesse et la confiance dans les mouvements. Les séances du mercredi mettent l'accent sur les transitions fluides inspirées du yoga vinyasa et du qigong, ainsi que sur des postures d'équilibre adaptées avec l'aide d'une chaise pour le support et l'élévation du sol. La deuxième heure, le vendredi, propose des étirements profonds avec le yin yoga dans une ambiance relaxante. Les cours sont dispensés par un instructeur certifié en yoga et en qigong. Quand ont lieu ces ateliers? Les mercredis du 15 juillet au 19 août. Et le coût est de 60 $ pour une heure par semaine ou 75 $ pour 2 heures par semaine. Alors, vous devez obtenir les renseignements complémentaires et vous inscrire auprès de l'association.
Parfait. Alors, il faut être membre de l'association pour participer à ces ateliers, pour pouvoir participer à ces ateliers?
Je ne sais pas. Ça vaudrait la peine de vérifier auprès de l'association si on peut juste s'inscrire à l'activité. Puis peut-être qu'on va tellement aimer ça qu'on va devenir membre.
Merci. Les bébés naissent-ils avec le sens du rythme? Question originale, Monique.
Oui, c'est toujours mon pop oui. Life dans la revue Epsilon qui ont des questions en effet assez, disons, stimulantes pour notre réflexion. Alors, pour en avoir le cœur net, il y a une équipe italo-hongroise qui a enregistré l'activité du lobe temporal de 49 nouveau-nés âgés d'à peine 2 jours. Ils leur ont fait écouter pendant leur sommeil 14 mélodies de Bach de 2 minutes 30 secondes chacune jouées au piano. Les résultats ont ensuite été croisés avec 4 mélodies contenant les mêmes notes mais sans aucune régularité mélodique ou rythmique. Alors, confirmation des auteurs, après modélisation statistique, la capacité à suivre la régularité de la musique est présente dès la naissance, mais elle ne concerne encore que le rythme. La sensibilité à la mélodie se développe, elle, progressivement, avec l'apprentissage du langage et, bien sûr, de la musique.
Oh, les bébés. Il y avait des concerts à un moment donné qui étaient créés pour les bébés et c'était tout à fait charmant. Je ne sais pas si ça existe encore.
Oh, c'est vrai que c'était tellement intéressant comme...
expérience, comme événement. Et Yvan, j'ai le numéro de téléphone là, de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Si les gens à l'écoute ont des questions, 514-524-4715, 514-524-4715, poste 1, ou sinon, par courriel, info@asamm.ca.
Oui. Et vous pourrez aussi vous enquérir de la prochaine sortie en Rabaska qui a lieu le 4 juillet de 10h à 15h.
Ça s'en vient, ça?
Oui, c'est ça, c'est pour ça que j'en parle. seulement 10...
ça donne-tu bien?
Si c'était passé, ça aurait moins d'intérêt. Il y a 10 places par embarcation. Alors, s'il y a assez d'inscriptions, il y a possibilité d'avoir 2 rabascas. J'ai déjà participé à cette activité-là. La SAM convoque tous les marins et moussaillons d'eau douce. C'est une traditionnelle aventure de fou qui nous emportera vers l'île des Juifs où nous mettrons pied à terre sur une île protégée le temps d'un pique-nique avant de revenir vers Laval. C'est dans la région de Sainte-Rose, dans le coin de Laval. Donc, c'est une activité réservée aux membres et aux bénévoles. C'est le 4 juillet de 10h à 15h et en cas de mauvaise météo, ça serait reporté au 25 juillet.
Le rabascas contient combien de personnes environ? Ça me semble être un énorme bateau.
Ce dont on parle, c'est 10 par embarcation.
OK. Un beau grand canot d'écorce.
Oui, tout à fait.
Et on termine avec la capsule linguistique. On en parlait la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps d'en parler, Monique, parce que vous aviez un mot à nous mettre dans les oreilles, tiré d'Instagram. Je sais pas, je me souviens plus exactement, ce sont des jeunes qui avaient inventé un mot.
Oui, exactement. Ce sont des jeunes d'une école secondaire. En fait, c'est un concours que fait l'Office québécois de la langue française à chaque année. Des jeunes doivent inventer des mots. Et c'était instavidéaste, quelque chose comme ça, là, le mot qui était accepté par le Larousse et le Petit Robert.
Bon, alors, il va falloir aller revisiter nos dictionnaires pour se le mettre en tête.
Oui, et si je peux me permettre...
Permettez-vous, là, vous êtes bonne là-dedans.
C'est que la prononciation du Qigong, ce n'est pas Qigong, c'est Qigong.
Qigong.
Oui, c'est une prononciation chinoise pour que les auditeurs puissent s'y reconnaître.
Merci. Mais est-ce que ça ressemble au Tai Chi, le Qigong?
Oui, ça ressemble au Tai Chi, oui, tout à fait. Mais c'est aussi une façon de, je dirais, de soigner notre intérieur, nos organes et tout ça. J'ai une amie qui suit des cours de Qigong et qui enseigne le Qigong depuis des années.
Ah oui.
Et
ça peut être thérapeutique.
Très thérapeutique, en effet.
Ça nous rapproche du bonheur.
Ah, exactement.
Alors, Monique, on a hâte d'avoir la réponse. Quel rapport y a-t-il entre le savon et les téléromans?
Eh bien, je vous parle de roman savon, qui est un calque de l'anglais, que les Américains appellent en fait les soap opera, ou soap, tout court.
Oui, tout court, c'est chic.
Alors, ce sont les feuilletons là, présentés à la télévision. Alors, on raconte là, qu'à l'origine, ces feuilletons étaient presque toujours commandités par des compagnies de savon, d'où le nom anglais. Mais au Québec, on a inventé le mot « téléroman » pour désigner cette réalité. Mais tous les téléromans sont pas complètement fous, là, extravagants ou mélodramatiques. On rend généralement soap par roman feuilleton ou mélodrame. On évitera de dire donc que sa vie est un véritable roman savon. On dira plutôt sa vie est un fond d'âme, roman feuilleton ou mélodrame. Voilà.
Oui, mais on veut pas que notre vie soit un mélodrame.
Non, c'est ça.
Non.
C'est peut-être mieux d'être un roman savon. C'est moins dramatique.
Oui, il me semble qu'il y a des bulles, puis c'est plus inspirant. Mais...
On pense au cœur qui a des raisons, là.
Ah oui, le cœur a ses raisons.
A ses raisons, pardon.
Avec... l'inénarrable Marc Labrèche et Anne Dorval.
Oui.
Mais
il y avait Sophie quand même.
Ah oui, la regrettée.
Sophie Fauché.
La très regrettée Sophie Fauché.
Oui.
Bon, alors merci beaucoup à Monique Kirouac et merci beaucoup à Yvan Deslauriers. Vous allez me manquer parce que la semaine prochaine, je n'y serai pas. C'est Denis Martin qui va vous accompagner, Denis Martin Chabot. Alors, vous ne perdez rien au change. Je ne sais pas si c'est une expression... C'est du bon français.
On va vérifier ça, Hélène.
OK, Monique. C'est parce que je veux pas que vous m'oubliez. C'est juste pour ça. Je tends une perche.
Jamais je ne vous oublierai, Hélène.
Merci beaucoup à vous deux. Puis encore une fois, bon anniversaire à notre ami Yvan qui a célébré une décennie importante. Même s'il est dans le déni, mais il faut quand même le dire sans trop en dire.
C'est ça.
Au plaisir.
Au plaisir.
Bye.
Ah oui, il y a du bon jazz. Restez avec nous pour les parasports et puis aussi une entrevue avec Véronique Côté.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Les parasports, et on retrouve avec grand plaisir Dominique Tremblay, qui était parti, là, lui qui est pas mal jet-set. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Alors, c'est votre dernière chronique avant les vacances, puisque vous serez absent tout le mois de juillet, et on vous retrouvera avec grand plaisir à la rentrée. Moi, je serai en vacances au mois d'août, donc j'espère que vous serez des nôtres pour la rentrée.
Ben oui, je vais être là avec un grand plaisir. Et si on se parle au début de septembre, je risque d'être continuer ma vie de jet set. Je vais être au championnat du monde de boccia qui va avoir lieu en Corée cette année. Donc, je vais être là jusqu'au 4 septembre. Je sais pas, bon, votre première journée d'émission, là, le premier jeudi.
On verra.
On verra. À ce moment-là.
Oui, oui, oui. Peut-être que vous allez même pouvoir nous parler de la Corée. Qui sait? Mais là, pour l'instant, vous faites un retour sur votre voyage. Vous étiez à Los Angeles et aussi vous étiez à Birmingham, en Alabama.
Oui, c'est ça. D'abord, le voyage a commencé sur la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles. La Fédération internationale de boccia faisait une visite de site des Jeux olympiques de Jeux paralympiques pardon de 2028 à Los Angeles. J'y participais là avec le directeur de la fédération et on a passé trois journées là-bas à visiter bon le site de compétition, aussi visiter différents hôtels que les arbitres et les officiels mineurs vont rester lors des Jeux paralympiques. Et aussi, on a eu beaucoup de rencontres là avec les différents départements là, des Jeux paralympiques. Par exemple, le transport, aussi la logistique, les cérémonies, l'équipement qui sera nécessaire pour que le boccia se déroule très bien là, durant les Jeux paralympiques. Donc, c'est beaucoup de travail et beaucoup de temps. 2028, c'est quand même dans bon 2 ans, mais à tous les ans, là, on va faire une visite. C'était notre deuxième. Il va rester encore quelques-unes d'ici les Jeux paralympiques, le début des Jeux paralympiques. Donc, c'est important de se rendre et pour que on ait les meilleures compétitions possible quand ce sera le temps des Jeux paralympiques. Un autre fait intéressant, à Los Angeles, bon, il se tenait la Coupe du monde de soccer là, qui se déroule encore présentement d'ailleurs. Le Canada a joué un bon match hier, mais ils sont inclinés contre la Suisse 2-1 à Vancouver. Mais c'était le premier match de la Coupe du monde là, de l'équipe américaine à Los Angeles pendant mon séjour là-bas. Et évidemment, on essaie toujours de faire un petit peu d'activité quand on a la chance. Et je crois que vous confirmez, là, les prix des billets, on disait qu'il était exorbitant. Et c'est confirmé. J'ai essayé de voir s'il y avait des places pour les personnes en fauteuil roulant disponibles dans le stade pour à Los Angeles pour le match de soccer d'ouverture des États-Unis. Et le prix du billet était plus de 3 000 $ américains en plus. Le taux de change était pas très favorable ces jours-ci. Alors
vraiment pas accessible.
Du moins pas pour les amateurs de soccer comme moi. On a plutôt on s'est rabattu sur un restaurant bar dans le centre-ville de Los Angeles pour regarder la partie et c'était quand même très bien. Et puis mais au moins on a encore nos 3 000 $ plus dans nos poches, qui va faire une grosse différence pour le futur.
Vous allez budgéter ça différemment, ces 3 000 $-là.
C'était toujours très bien. Et par la suite, je me suis dirigé vers Birmingham, en Alabama. Il y avait une compétition internationale de boccia qui s'y déroulait. Il y avait des athlètes, 60 athlètes de 12 pays. C'était une autre étape aussi pour la préparation des Jeux paralympiques de Los Angeles, puisque on entraînait des officiels mineurs qui devraient être sur place. La compétition s'est très bien déroulée. Et puis, bon, en Birmingham, en Alabama, il y a un centre paralympique d'entraînement à la Fondation Lakeshore. La Fondation Lakeshore est un organisme qui est rattaché à un centre de réadaptation pour personnes handicapées en Alabama. Et je vais vous dire que c'est quelque chose comme endroit, là. Ils ont construit un campus où on retrouve trois terrains de basketball, une piste d'athlétisme intérieure, une piste d'athlétisme extérieure, des terrains de tennis, une piscine, un mur d'escalade, des champs de tir à l'arc et au pistolet. Donc, toutes les choses pour bien préparer les athlètes paralympiques américains. Et donc, c'était quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup à travers le monde, des aussi développés comme centre d'entraînement. Là. Donc, c'était très intéressant de voir ça. Et ça serait très plaisant là, de voir quelque chose comme ça au Canada, où tout ce qui est à l'intérieur de ce centre d'entraînement-là est accessible aux personnes en fauteuil roulant et de d'autres handicaps. Alors, c'est vraiment quelque chose de très bien.
Alors, vous revenez la tête pleine de beaux souvenirs?
Oui, c'est ça.
Et le Comité international olympique va remettre des prix en argent, de l'argent sonnant, et nous dit quel sera, vous nous dites, Dominique, quel sera l'impact sur les Jeux paralympiques?
Mais c'est ça, c'est que ils ont annoncé un fonds de 100 millions de dollars qui sera remis, pas nécessairement aux gagnants de médailles, mais à des athlètes qui ont participé soit aux Jeux olympiques d'hiver ou aux Jeux olympiques d'été. On parle de bourses de 10 000 $. Donc, c'est un peu différent de ce qui a été annoncé au cours des dernières années où les gouvernements de pays indépendants du Comité paralympique international donnent des prix pour les Jeux olympiques. Et quelques-uns, dont le Canada, on remet des prix aussi pour les médailles paralympiques. Alors, ce fonds-là est mis en place seulement pour les Jeux olympiques. Et évidemment, il y a beaucoup d'argent qui se brasse dans le monde des Jeux olympiques là, avec les droits de télévision et de commanditaires. Donc, le Comité international olympique peut se permettre de donner 100 millions de dollars là, en donnant des bourses de 10 000 dollars à des milliers d'athlètes. Mais le Comité paralympique a des finances qui sont évidemment beaucoup plus petites et pour l'instant, ce genre de programme-là va être très difficile à mettre en place. On pourrait parler même de plusieurs années, mais il y a une très bonne relation entre le Comité paralympique international et le Comité olympique international, donc qui ont déjà des ententes de partenariat. Alors peut-être que dans les prochaines discussions là, qui devraient se dérouler au cours des deux prochaines années, ce genre de financement-là pourra être étudié et peut-être que les athlètes paralympiens pourraient aussi bénéficier de bourses dans le futur. C'est évident que, avec leur belle performance qu'on voit au cours des derniers Jeux paralympiques, que ce soit d'été ou d'hiver, ce serait très bien que les athlètes paralympiens puissent recevoir ce genre de soutien-là financier et on se croise les doigts pour que l'argent soit, qu'on trouve l'argent pour que les athlètes paralympiques puissent en bénéficier.
Merci beaucoup, cher Dominique Tremblay. Portez-vous bien. Je vous souhaite un bel été puis au plaisir de vous parler.
On se repose et puis on reprend ça au mois de septembre.
Oui, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Qui aime le party? Envie, c'est job. On pourrait pas demander mieux. Seul Dieu sait ce que sera demain. Mais quand on fait ça, tu sens qu'on n'est pas proche d'être mort. Et en ligne, on a l'instinct de frère. Killer toute l'année, c'est notre seul désert. Puis c'est cool, juste comme partir l'air conditionné. Tant qu'à courir, saute dans la piscine et oublie donc tout ce que tu sais. Vu que chaque pensée peut t'amener une nouvelle idée. Chose que tu vois chaque matin, le bout de ton nez. Prêt à explorer combien vaste le monde est. Y'a zéro location ou achat. Juste à mettre un seul pied à l'air libre pour que le bonheur se donne. Miroir, miroir, glace du nord. D'hiver dans laquelle on peut se voir.
Oh yeah, j'suis cool, cool, yeah. Un peu dans mon pied, un mot, on te cache d'où, yeah. J'ramène le courrier, de bonnes news, yeah. Brosse ton esprit, on compelait ton boulet. Nos vies c'est cool, yeah. Même si on se foutait. Nos fuckers du bon temps, y'a pas à douter. Redesse comme le doux, on prend tout, yeah. Prends ce camp, vieux, vas-y smoke, yeah.
J'suis debout, même au
vie, faut bien job in. Du coup, je suis dans une clinique, c'est moi qui vaccine. Let's do. Peu importe si on m'a compris. Aujourd'hui, rien à battre, mes tracks sont petits. Tu veux nous embrouiller, Oberly, laisse faire. On n'est pas venu dans le spot pour faire des querelles. Merci pour une autre journée sur la terre. Je feel bien comme de l'eau du thé dans une théière. Ou comme un prisonnier au first day out. Trop pas le pour chialer, hey yo, hey yo. Smoothie au blurry, soleil d'un feuillu. Souvenir d'hier soir complètement blurry. 20 vieillis à pointe d'une bonne cuvée pour mon peeps dans le ghetto sur le kiwi. Oh yeah, j'suis cool, cool, yeah. Un peu d'amour pis un menton de cache-doux, yeah. J'ramène le courrier, de bonnes news, yeah. Brosse ton esprit au complet, ton boulet. Nos vies c'est cool, yeah. Même si on se fout d'elle. Faut pas kill du bon temps, y'a pas à douter. Redesse comme le doux, on prend tout, yeah. Prends ce calme, vieux. Wush, wush, tu t'en vas-tu te pousses? Tu déguerpis vite, dis, c'est pas un pas de plus. Puis c'est une directive, c'est pas un request. Si tu débarques sur un bad vibe, on te couche. Si tu pètes une couche, on t'envoie aux douches. Pas de place sur notre terrain pour le monde louche. Matière organique, c'est dans le compost. T'en sors un gros gaz, ça crée genre un buzz. Le feeling d'être à la maison dehors. Confo en plein air, des vrais routards. C'est pas juste pour le cash, le goût de. Qu'on fournit l'ambiance pour tes écouteurs.
Deviens-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu?
Mon papa aussi, que pour être aimable et aimer d'autrui, pour aimer ce qu'on fait, pour aimer sa vie, faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie, puis le faire à fond, puis mettre le prix, puis être dur parce que c'est pour ça que tu vis, puis quand t'aimes pour vrai, quand t'aimes la vie, dis qu'est-ce que tu penses, puis pense donc qu'est-ce que tu dis, tu sais. C'est là qu'on se rend compte si t'es un front. Donc si t'es un roadie,
deviens-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu?
Ma maman y pensait, mon papa me l'a dit. Ce qu'il y a de plus dur, c'est d'être simple dans la vie. T'auras beau dire non, t'auras beau dire oui. Y'a du monde qui aime pas ça, que t'aimes ta vie. Y'a du monde qui va peut-être te traiter de pourri. Parce que tu penses, parce que tu choisis. Tu peux rien faire s'ils ont pas compris que t'es aimé pareil, même si t'es parti. T'sais, ça va t'arriver de pas dormir. Ça va t'arriver d'avoir le goût d'haïr. Ça va même t'arriver de douter de toi.
Deviens-tu ce que t'as voulu? Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu?
Confirmé. Zéro. Nous ne pouvons confirmer votre identité pour le moment.
Identité.
Confirmé.
Zéro.
Confirmé.
Zéro.
Nous ne pouvons confirmer votre identité pour le moment. Confirmé.
Zéro.
Thank you. ce que t'as voulu. Deviens-tu ce que t'avais vu? Deviens-tu ce que t'aurais pu? T'as-tu fait ce qu'il aurait fallu?
C'était Daniel Boucher qu'on vient d'entendre avec la chanson « Deviens-tu ce que t'as voulu ?» Tout juste avant, on a entendu « Poirier et smoothie au bleuet ».
Oui, ça nous met dans l'ambiance des fêtes de la Saint-Jean, de la fête nationale. Hein? Ça s'est terminé hier. J'espère que vous en avez bien profité. Il y avait des beaux spectacles diffusés à la télévision le 23. C'était en direct de Québec et justement, Daniel Boucher a ouvert le spectacle du 23 juin dans la vieille capitale avec la chanson « Chez nous ». Il était vêtu de bleu, de blanc dans un beau, j'essaie de trouver le pendant français pour dire « suit » parce qu'il me faisait penser à Elvis Presley. Il avait un charisme fou, ce Daniel Boucher. Il a fait chanter la foule avec, entre autres, la Désise, Ma gang de malades et la chorégraphie incluse. Claude Dubois était là en voix, Marie-Denise Pelletier également, qui était en super forme vocale. Il y avait de l'énergie dans ce spectacle-là, grâce notamment à Marie-Mé, à Lou-Adrienne Cassidy et à Mia Tiner. Bien aimé ce spectacle du 23 juin. Et le 24, on en a parlé un petit peu là, avec la présence hallucinante, oui, 81 ans, Diane Dufresne. On ne veut pas faire de l'âgisme, mais là, octogénaire, avec cette énergie et ce souffle, elle a chanté Oxygène, oui. Elle manquait d'oxygène, mais c'était un jeu qu'elle faisait parce qu'elle en avait du souffle. Elle a joué ce personnage-là aux côtés de Saul Dia. Ils faisaient une paire d'enfer, ces deux-là. Alors, aujourd'hui, dans Le Devoir, de toute façon, on en parle pas mal dans les journaux et j'imagine que les critiques télé vont revenir sur... Je ne sais pas s'il est en vacances, Hugo Dumas, mais j'ai cherché sa critique ce matin. On fait plutôt des comptes rendus plutôt que des critiques. Des milliers de personnes fêtent le Québec à Montréal. On voit de belles images, beaucoup de drapeaux de fleurs de lysée à la une du Devoir. Et on parle aussi d'un bijou patrimonial laissé à l'abandon à Stansted pendant plus d'un siècle, écrit Ariane Godbout. Le Collège des Ursulines de Stansted a été l'un des principaux établissements d'enseignement des cantons de l'Est. Aujourd'hui, ce symbole de l'histoire locale est éventré et exposé aux intempéries. C'est dans un état pitoyable, déplore Mathieu Farfan, historien et ex-conseiller de la ville de Stansted. Sur le flanc gauche du majestueux collège des Ursulines, un trou béant laisse voir aux passants l'intérieur de l'école, qui a été de 1884 à 2004 un haut lieu d'éducation pour les enfants de la région. Le vent, la pluie et la neige abîment à vitesse accélérée le bâtiment qui fait pourtant partie du parcours patrimonial du village. Devant une plaque historique, explique toujours l'importance du lieu. C'est devant tout le monde, et y compris les touristes qui viennent. C'est ce qu'ils voient quand ils arrivent à Stansted, ajoute M. Farfan. La cause de ce délabrement remonte à la démolition en 2020 du passage qui reliait le bâtiment à une autre aile, une intervention justifiée par des considérations d'assurabilité. Menée à coups de pelle mécanique, l'opération a laissé une large ouverture sommairement recouverte de feuilles de tôle rouge. Aucun travail de consolidation n'a été réalisé. Le complexe appartient à Gestion Fratelli, une compagnie immobilière spécialisée en résidences privées pour aînés. Depuis 2011, l'aile Sainte-Famille, rebaptisée le manoir Stansted, accueille plus de 70 résidents, mais l'ancien collège, juste à côté, n'a bénéficié d'aucun travaux de reconversion ou de préservation. Laisser un bâtiment historique dépérir pour rendre sa démolition inévitable est une pratique connue par ceux qui souhaitent se débarrasser d'un immeuble. Et plus loin, on peut lire que pour l'instant, le maire de Stansted souhaite trouver une façon de collaborer avec le propriétaire pour trouver une solution. Celui-ci collabore-t-il avec la ville? M. Stone devient hésitant. Oui, il nous répond, mais c'est sûr que ce qu'il veut et ce qu'on veut, ce n'est pas toujours la même chose. Ce que Gestion Fratelli désire, c'est peut-être un nouveau bâtiment dont la construction serait moins chère que la reconversion d'un édifice patrimonial. Alors, on attend Véronique Côté. Viendra-t-elle? Telle est la question. Mais pour tout de suite, on y va avec une autre chanson, Mathieu. Elle fait partie de la programmation du Festival international de jazz de Montréal. Je l'ai vue en spectacle deux fois et c'est une artiste à voir. Elle est vraiment extraordinaire. Elle a un charisme fou, une voix magnifique. On va l'écouter en français dans « Les étoiles ». Mélodie Gardot. Mélodie Gardot.
Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, dites-moi étoile, qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi, étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belle dans les cieux. Dites-moi, étoile, qui vous donnera l'amour?
Mélodie Gardot, qui sera le mercredi 1er juillet et le jeudi 2 juillet à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, une chanteuse à découvrir ou à redécouvrir. Elle est arrivée, essoufflée à vélo, mais elle est là pour quelques minutes. Véronique Côté, on va prendre tout le temps qu'on a pour vous parler. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Véronique, qui est une comédienne, qui est aussi une autrice, qui est aussi une metteuse en scène et qui vient nous parler de la pièce Un succès populaire qui met en vedette Isabelle Lamontagne, Sébastien Gauthier, Mélanie Saint-Laurent et Steve Laplante. C'est une pièce que vous avez co-écrite avec Frédéric Blanchette. Un succès populaire, qu'est-ce que ça raconte, Véronique?
Alors, un succès populaire, c'est un groupe d'amis. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui sont dans la cinquantaine, qui se sont connus quand ils étaient au cégep. Et puis, là-dedans, il y a un couple. Il y a aussi un ancien couple qui sont plus ensemble, mais qui sont toujours amis avec toute la bande. Et ces quatre-là, il y a une chroniqueuse culturelle, il y a un homme de théâtre, un créateur de théâtre, et puis le couple, c'est deux psychologues. Et puis, ce qui va se passer, c'est que la psychologue...
Ça va sans thérapie, là?
Non, pas du tout. En fait, la psychologue va décider d'écrire un livre, et qui un essai, en fait, qui parle de sa parentalité tardive, mais qui met en scène ses proches, dont ses amis, ces amis-là, qui sont dans le milieu de la culture. Et donc, tout ça va venir ébranler l'amitié entre eux parce que ben forcément ils sont mis en scène dans ce récit-là et puis ça vient tout poser la question de quelle est la place comment on fait pour mettre en scène nos proches en art, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que éthiquement, c'est possible?
Ça arrive souvent, on pense à la pièce Le vrai monde de Michel Tremblay.
Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est pas une question qui est nouvelle, mais en ce moment, avec la façon dont l'autofiction est omniprésente en littérature, entre autres, ça nous semblait un sujet bien intéressant
oui.
à fouiller, à déplier. Puis on s'est bien amusé, en fait, avec toute cette notion-là du vrai, du faux, de l'inventé, aussi de la mémoire, parce que pour faire la pièce, on s'est documenté, Frédéric Blanchette et moi, sur comment ça fonctionne, la mémoire, les souvenirs. Puis on s'est rendu compte que dans la mémoire aussi, il y a une part de fiction, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on convoque un souvenir, on le modifie. Donc, les souvenirs des uns et des autres, surtout plus il y a du temps qui a passé, peuvent vraiment différer. Donc, c'est ça qui se passe dans cette pièce-là. Qui on est dans le souvenir des autres? Qu'est-ce que ça signifie, la réussite aussi? Tout ça, c'est plein de questions.
Oui, plein de questions intéressantes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'humour à l'intérieur de ces thèmes-là?
Oui, c'est une pièce qui porte à réflexion, mais qui est écrite avec des dialogues très punchés. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'esprit. Les personnages aiment bien cette joute verbale. Ils se piquent les uns les autres. Fait que, donc, oui, il y a beaucoup d'humour. Puis, il y a des surprises dans ce spectacle.
Ah oui, il y a des surprises. Oui. On aime ça, les surprises. Et ben, ça, c'est pas une surprise. C'est dit. C'est trois couples pour vrai dans la vie là, qui participent à cette création. Vous êtes en couple avec Frédéric Blanchette. Et les autres que j'ai nommés tantôt.
Oui, c'est deux couples qui sont sur scène.
Ah, c'est quand même assez spécial. Est-ce que ça change la dynamique? Qu'est-ce que ça apporte?
C'est sûr qu'au Petit Théâtre du Nord, l'ambiance est très familiale parce que c'est deux couples qui ont fondé cette compagnie-là. L'ambiance est très familiale. Ce que ça change, moi, dans l'écriture, le fait de mettre en scène des mots qui ont été écrits par mon chum, ça fait que je sais parfaitement comment il les dirait, qu'est-ce qu'il avait en tête. Fait que ça fait que des fois, ça fait des choses comme « Non, 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 mais quand Fred dit des choses comme ça, tu sais, je dirige les acteurs, par exemple, parfois, en leur expliquant des choses que mon chum fait ou dit dans la vraie vie. Fait que c'est ça que ça change. Mais sinon, c'est plutôt une curiosité que ça change pas grand-chose.
Ouais. Et jusqu'où on peut utiliser la vie des autres pour raconter sa propre histoire?
Ben c'est ça la question de la pièce, en fait. Ouais. Et c'est une question qui est au centre de la création, c'est-à-dire que en ce moment, il y a des pièces qui sont mises en marché comme étant des fictions et il y en a d'autres qui sont mises en marché comme étant des auto-fictions, mais il y a toujours, même dans de la fiction pure, les auteurs se racontent toujours, bien entendu. C'est sûr que ça paraît moins dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, que dans une pièce comme celle qu'on fait là, mais oui, il y a toujours...
Ça part toujours de quelque chose de réel.
Ça part toujours de soi, sûr. Et après ça, mais est-ce qu'on a le droit de mettre les proches là-dedans? C'est une des questions que la pièce pose. Je ne sais pas si on y répond.
Ah oui, j'aurais aimé ça en parler encore plus longtemps avec vous, Véronique Côté, mais vous nous avez mis quand même l'eau à la bouche. Je rappelle que la pièce est un succès populaire. C'est présenté à partir de demain, 26 juin jusqu'au 22 août, au Centre de création Boisbriand, le Petit Théâtre du Nord, tout à fait sympathique comme endroit.
Oui, une belle sortie.
Oui, passez un bel été. Puis on va aussi vous suivre au cinéma. Vous allez jouer dans le film Pauline Julien de Anaïs Barbeau-Lavalette.
Je l'ai surtout co-scénarisé.
OK, je pensais que vous jouiez Fabienne.
Un tout